Insécure épisode technique, je suis copain de Quentin. Comment vas-tu?
Je vais très bien, merci. Et toi?
Très bien aussi. Aujourd'hui, on parle du rapport que tu viens, dans le fond, au moment où on enregistre, c'est, il y a quelques jours, tu viens de publier la deuxième partie de celui-ci sur Evil Tokens, qui est essentiellement une nouvelle stratégie par un groupe d'attaquants d'une certaine sophistication qui vient un peu changer la donne sur les attaques qu'on va avoir dans les prochaines semaines et prochains mois. Moi, ça m'a fait énormément peur quand j'ai vu ça, fait que j'ai eu froid dans le dos. Bref, je vais te laisser commencer à expliquer les choses, puis je vais aller sur des questions au courant de la discussion.
OK, merci. Donc, Evil Tokens, pour commencer, c'est un phishing as a service. Donc, c'est un attaquant qui a développé un kit de phishing et qui va revendre à de nombreux affiliés avec le modèle d'une subscription mensuelle. Et donc, aujourd'hui, on suit de nombreux phishing as a service dans la nature, puisqu'ils sont très répandus du fait que de nombreux affiliés avec des niveaux d'expérience en phishing plus ou moins élevés peuvent avoir accès à ces kits et ensuite mener leur propre campagne. Et donc, régulièrement, on fait de la veille pour découvrir s'il y a des nouveaux phishing as a service qui entrent dans le marché et qui pourraient être à l'origine d'attaques chez nos clients. Et en début mars 2026, en faisant de la veille sur un canal Telegram donc dédié à des discussions sur le phishing et sur la fraude par business email compromise, nous sommes tombés sur un acteur qui s'appelle Evil Tokens Admin, qui faisait de la publicité pour son nouveau kit de phishing. Ce genre d'événement, ça arrive assez régulièrement, et donc là, l'enjeu, c'était de savoir est-ce que c'est un kit de phishing qui est pertinent, qui est sophistiqué, qui peut être adopté par les cybercriminels. Dans quel cas, on va pousser l'analyse, on va investiguer, ou si c'est une menace qui est peu intéressante de notre point de vue. Et donc, on a un peu poussé l'analyse et on s'est rendu compte que c'était une menace vraiment intéressante par plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que l'attaquant, il avait déjà bien ficelé son business avec différents bots, canaux, vidéos pour promouvoir son kit. Et puis, l'aspect le plus important pendant ce début de l'investigation, c'était que le kit, il permettait de faire du phishing par device code. Donc, en quelques mots, ça change du phishing par adversary in the middle, qui consiste à l'attaquant d'être au milieu entre la victime et le service sur lequel la victime s'authentifie, et l'attaquant va relayer les états d'authentification pour récupérer le cookie de session. Là, avec le phishing par device code, l'attaquant va initialiser une autorisation d'un device. Donc, en général, c'est une méthode d'authentification qui est utilisée pour les smart TV, les objets connectés. Et l'attaquant, il va initier l'autorisation d'un device, donc virtuel, celui de l'attaquant. Et il va demander à la victime de compléter l'autorisation. Et donc, toutes ces étapes vont se faire directement sur les domaines légitimes de Microsoft. Et une fois que cette autorisation est finalisée, l'attaquant aura accès au compte de la victime via deux tokens, un refresh token et un access token. Et ça va lui permettre ensuite d'accéder à tous les services associés au compte Microsoft de la victime. Et donc ça, c'est la première fois que l'on voit un phishing as a service qui implémente cette technique de phishing par device code. Avant, c'était plutôt les attaquants sophistiqués, donc tels que des attaquants sponsorisés par des États ou des groupes cybercriminels assez avancés qui utilisaient cette technique. Mais là, le fait que ça soit implémenté par un phishing as a service, on a direct compris que ça allait être très répandu puisque de nombreux acteurs moins sophistiqués vont pouvoir accéder à des pages de phishing clés en main déjà toutes faites qui implémentent cette nouvelle technique par device code.
Oui, et justement, l'usage du device code comme stratégie de récupération du token d'authentification, c'est, comme tu mentionnes, c'est assez nouveau. Mais ça demande aussi un certain back-end de la part du phishing as a service qui loue ça. Donc, il y a quand même une infrastructure que lui a mis en place pour permettre le fonctionnement de ça, donc d'initier la demande d'authentification, l'obtention du code et le relais de ce code-là vers la victime pour que celle-ci, malheureusement, tombe dans le piège et fournisse l'information.
Oui, tout à fait. C'est ce genre de phishing, ça permet de contourner les protections par authentification par multifacteur, enfin aussi appelé 2FA ou MFA. Et donc, les kits de phishing reposent sur des interactions avec le service légitime. Et donc, il y a de nombreuses étapes, de nombreuses requêtes qui sont implémentées pour faire une vraie authentification ou autorisation avec les serveurs de Microsoft. Et donc, ça demande en effet à l'attaquant d'avoir une connaissance assez poussée de comment s'authentifier sur un serveur Microsoft, autoriser un device en l'occurrence. Et donc, ce n'est pas accessible à tout le monde et ça demande quelques travaux de recherche. Depuis quelques années, cette technique est implémentée dans des kits qui sont open source. On peut citer Squarefish ou RedTX, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, pour en faire un FAS, ça demande en effet des capacités, des skills techniques, plus une infrastructure pour... échanger avec les serveurs de Microsoft avec les différentes problématiques qui viennent, donc ne pas partir que d'un serveur puisque on va vite être l'attaquant va vite être détecté et etc.
Donc la structure qui est faite, donc tu as le phishing as a service et ensuite il loue sa plateforme à qui veut bien, je pense que c'est sur Telegram qui s'affiche justement pour revendre ou louer sa plateforme qui permet ce type de choses-là. Comment ça fonctionne, cette négociation-là, les accès et les coûts associés à l'usage d'une telle plateforme?
Oui. Alors oui, tout à fait, tout se passe via Telegram. L'attaquant, donc l'opérateur de la plateforme de phishing as a service, a créé un bot Telegram pour automatiser toutes ces étapes. Ensuite, il a également des pages, des canaux Telegram pour promouvoir son kit, promouvoir les nouvelles fonctionnalités. Et également un compte Telegram pour maintenir du support pour ses clients. Puisque lorsqu'il est arrivé sur le marché, il devait sûrement avoir une petite dizaine de clients. Aujourd'hui, c'est possible qu'il ait plusieurs centaines de clients. Donc, il y a besoin d'avoir une certaine structure pour que son business puisse tourner de manière professionnelle, même si c'est pour faire des activités cybercriminelles. Et donc, pour la tarification et comment fonctionne le modèle, les affiliés vont utiliser le bot Telegram qui a été créé par l'opérateur pour y mettre de l'argent, donc via un service qui s'appelle Payment Now. C'est un service qui permet de mettre de l'argent via des crypto-monnaies. Et une fois que les affiliés ont mis une certaine somme d'argent, ils vont pouvoir souscrire à la plateforme FAS. Et donc, pour Evil Token, il faut payer d'abord $1,500 pour avoir accès au panneau d'administration et toutes les fonctionnalités associées. Et ensuite, il y a une souscription de $500 par mois pour avoir accès à des pages de phishing opérationnelles. Donc, pour accéder à ce service, la première fois, le premier mois, il faut payer $2,000 et ensuite il suffira de payer la souscription de $500 tous les mois. Donc c'est quand même un tarif assez élevé par rapport à ce qui se fait dans le marché, puisque dans le marché, les autres kits de phishing sont vendus plutôt pour quelques centaines de dollars, de l'ordre de 300-400. Donc là, c'est un service assez élevé, mais on va comprendre, on va en discuter sûrement plus tard, que il n'y a pas uniquement les pages de phishing fonctionnelles qui est donnée avec ce service, mais il y a aussi toutes les fonctionnalités de post-compromise augmentées par de l'intelligence artificielle. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que le service est cher.
Ça, puis justement, tu ouvres la porte sur la post-compromission. Avant d'aborder spécifiquement sur comment eux fonctionnent, qui est déjà assez parent en soi. La façon classique que les opérateurs fonctionnent, juste pour qu'on puisse mettre en perspective ce que ce nouvel opérateur-là peut apporter.
Alors, pour remettre un peu du contexte sur ce type d'attaque par phishing, les attaquants, en général, vont utiliser ce type de vecteur initial pour compromettre un compte Microsoft ou Google d'un employé d'une organisation. Et cette compromission, c'est uniquement la première étape. Ensuite, il va utiliser l'accès à ce compte pour faire de la fraude par business email compromise. Donc, en général, les attaquants vont cibler des employés qui travaillent sur des activités financières. Donc ça peut très bien être des gens dans la finance, dans de l'investissement, que des personnes dans les services des relations humaines, dans les services de paix, ou dans l'achat, la vente, etc. Donc les attaquants vont cibler ces personnes dans le but de compromettre leur compte. Et une fois qu'ils ont compromis le compte, ils vont essayer d'impersonnifier la victime pour déclencher un virement d'argent vers le compte, donc vers son compte, vers le compte de l'attaquant, en se faisant passer par la victime. Et donc, en général, avec le phishing ITEM, donc pour Adversary in the Middle, le phishing qui est implémenté dans la majorité des plateformes FAS, l'attaquant va avoir accès à un cookie de session. Et ce cookie de session va pouvoir lui permettre d'accéder à la boîte mail de la victime. Et là, il va y avoir une partie où il va faire de la reconnaissance sur qui est la victime, dans quelle organisation elle travaille, quel est son rôle, avec quel partenaire, client ou collaborateur elle échange. Est-ce que cette victime fait des transferts d'argent? Et une fois que l'attaquant a compris tout ça, il va essayer de se faire passer pour la victime et changer les détails bancaires, donc changer un RIB, changer des détails bancaires pour recevoir un virement à la place d'une personne légitime. Et donc, avec Evil Token, comme je l'ai déjà dit précédemment, ça n'implémente pas le phishing par adversary in the middle, aussi appelé phishing ATM. Ça implémente du phishing par device code. Donc là, l'attaquant, il va pas recevoir un cookie de session directement qui va lui permettre d'accéder à la boîte mail de la victime. Il va recevoir deux jetons, donc l'access token et le refresh token. Et il va devoir échanger ces jetons via des systèmes légitimes de Microsoft pour gagner accès à plus de services et dans le temps plus longtemps. Un access token généré par Microsoft, ça donne accès à l'attaquant pendant 60 à 90 minutes sur un service de Microsoft, donc par exemple le service de Outlook. L'attaquant va échanger l'access token avec d'autres tokens pour avoir accès à plus de services, donc pas uniquement Outlook, mais aussi SharePoint, OneDrive, Microsoft Graph API, Teams par exemple. Et il va aussi également gagner persistance en récupérant un primary refresh token qui va lui permettre d'avoir accès pendant 90 jours et donc d'établir de la persistance sur le compte de la victime. Et donc, une fois que l'attaquant il a accès à plusieurs services pendant 90 jours, là, il a tout en main pour faire son scénario d'attaque, pour analyser la boîte mail de la victime, même les documents de la victime, les contacts de la victime, et construire son scénario d'attaque pour envoyer des emails frauduleux et essayer de soutirer de l'argent à des contacts de la victime.
Et à partir de cette extraction-là, de toute façon, ils autres ont implanté ça avec le Graph API, ce qui leur donne un accès beaucoup plus facile de point de vue programmation, de un. Puis de deux, l'opérateur offre une interface qui est quand même assez chouette de consultation pour aller naviguer dans les différentes boîtes qui ont été volées à travers ce kit-là. Et donc, à partir de là, cette information-là, un, ils peuvent le visualiser, mais aussi tout le volet programmé. Je pense que c'est ça qui est le plus gros changement dans le fonctionnement de cet opérateur-là.
Oui, exactement. C'est très juste. C'est très juste. Précédemment, les attaquants devaient faire de la reconnaissance de manière manuelle en allant sur le compte, sur la messagerie mail de la victime, et donc regarder les emails, regarder les dossiers, regarder les messages envoyés. Evil Token a, comme tu disais, programmé des requêtes vers l'API Microsoft pour faire de la reconnaissance de manière automatisée. Donc automatiquement, l'attaquant, via l'interface, va pouvoir déclencher une phase de reconnaissance. Donc il va récupérer le calendrier de la victime, les contacts de la victime, les dossiers dans la boîte mail de la victime, et également tous les mails de la victime, la hiérarchie associée au compte, donc qui est le manager, qui sont éventuellement les employés en dessous de la victime. Et tout ça va être consolidé sur l'infrastructure d'Evil Token, donc sur le serveur central. Et ensuite, Evil Token va permettre à l'attaquant d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire un résumé de la situation de la victime et des opportunités d'attaque pour le futur proche. Et donc, ce qu'on a essayé d'expliquer donc dans nos articles de blog, C'est qu'avant, un attaquant, il pouvait mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour faire toute cette étape de reconnaissance, pour construire un scénario d'attaque un peu crédible qui va récupérer une transaction financière régulière, qui va récupérer le style d'écriture de la victime, qui va récupérer à quelle date sont faites ces transactions pour que l'attaque soit vraiment plus réaliste. Beaucoup de choses. Tout ça, ça prenait du temps avant à faire de manière manuelle et également de l'expertise pour l'attaquant, puisqu'il faut bien qu'il comprenne les différents process financiers. Et donc tout ça, maintenant, c'est automatisé avec la plateforme Evil Token, avec deux grands prompts par LLM, donc par intelligence artificielle, pour que tout ça soit fait en quelques minutes et à un coût relativement faible.
Ouais, ça, c'est complètement fou. Ça change, un, la vitesse, parce que, puis vous la décrivez bien dans votre article, justement, qu'avant, on passait plusieurs probablement plus plusieurs jours d'ailleurs que plusieurs heures à faire l'analyse pour arriver à quelque chose. Là, on parle plus de quelques minutes avant que quelque chose arrive dans les mains de l'attaquant et qui est déjà prêt à utiliser. En plus, c'est vraiment fou, parce que vous avez mis dans votre article les deux prompts qui sont utilisés, qui sont très bien faits. Et permettre justement d'arriver à cibler correctement, la bonne façon, et tout est déjà fait. Fait qu'on a déjà, c'est déjà trop facile, là. C'est fou, là.
Ouais, oui, carrément. Je pense que ce kit va permettre à des attaquants très peu sophistiqués ou qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine-là d'entrer dans ce type de schéma d'attaque, donc par fraude, par business email compromise, puisque tout le travail va être mâché par ce kit. Et aujourd'hui, Evil Token, c'est le premier kit qui introduit, enfin, de notre point de vue, c'est le premier kit qui introduit toutes ces fonctionnalités d'automatisation via les requêtes Microsoft Graph API et surtout via de l'intelligence artificielle. Mais on imagine que les concurrents vont très vite s'adapter et se mettre à jour pour que ces fonctionnalités soient accessibles par différentes plateformes FAS et pour de nombreux attaquants. Et donc, les enjeux pour les entreprises... Ah, oui, excuse-moi.
Non, vas-y.
Et donc, oui, les enjeux pour les entreprises vont être d'être encore plus rapides pour détecter ces intrusions et pour y répondre. Et ça va être aussi plus difficile de ma perspective, puisque les scénarios d'attaque, les emails qui vont être envoyés par l'attaquant en se faisant passer pour la victime vont être beaucoup plus... précis grâce au contexte qui va être récupéré de manière automatique et analysé de manière automatique par l'IA, puisque avant des attaquants pouvaient faire, j'imagine, des erreurs par rapport à ce contexte, à ces scénarios, au process, mais l'IA, puisque les prompts sont quand même bien rédigés, bien précis, avec toute la quantité de données qui a été volée depuis le compte de la victime, ça va permettre de faire des scénarios très, très précis et donc d'écrire des emails très contextualisé par rapport à l'environnement de la victime.
Ouais, bon, on voit beaucoup justement cet aspect-là. C'est déjà commencé d'un point de vue non mécanisé, c'est-à-dire qu'il utilise déjà pour rédiger de façon des courriels beaucoup plus propres, des mails beaucoup plus faciles, beaucoup plus difficiles à détecter. Déjà là, on a déjà de l'avancement. Là, il est encore ajoute du contexte, donc il est encore trompé encore plus la vigilance des utilisateurs à tomber plus facilement dans le piège. J'ai remarqué dans votre papier, justement, il y a deux éléments. Le premier, c'est l'usage de Grok comme étant le moteur d'intelligence artificielle. Mon feeling, c'est que c'est probablement celui qui est le moins à cheval sur les principes moraux, donc il doit tolérer davantage cet usage-là. Et la deuxième, c'est que vous avez clairement mentionné que le code qui a été généré par cet attaquant-là a été généré par du AI aussi. Je vais te laisser répondre aux deux volets.
Oui. Alors, oui, en effet, on a pu avoir accès au code de l'attaquant. Donc, c'est un code JavaScript qui implémente toutes les étapes du kit de phishing Evil Token, donc les étapes pour récupérer les jetons du compte de la victime pendant les étapes d'authentification. Et ce code, il implémente aussi donc les capacités d'outillage pour la post-compromission. Et donc, en effet, avec le prompt, les parties de reconnaissance via Microsoft Graph API, etc. Et pour les prompts qui permettent d'automatiser l'analyse des données volées, donc des emails et des données de reconnaissance, Evil Token va utiliser Grok, mais pas Grok avec un K qui est celui utilisé par X, le réseau social anciennement Twitter. C'est Grok avec un Q, et je crois que ça n'a rien à voir avec Grok avec un K, j'ai pas poussé, mais je crois que c'est un service qui permet d'utiliser facilement des IA, différents modèles d'IA via l'API. Et donc il y a deux modèles qui sont utilisés par Evil Token. Il y a Grok Llama 3.8b. Donc c'est le premier modèle qui est utilisé pour analyser des batchs d'emails, puisque l'attaquant envoie les emails 250 par 250 en parallèle avec les résultats de reconnaissance pour faire l'analyse et trouver les activités financières dans la boîte mail de la victime. Et le deuxième prompt, il récupère toutes ces analyses, il va les consolider pour en faire un score de fraude potentielle, donc pour indiquer en un coup d'œil à l'attaquant est-ce que c'est un compte qui est intéressant, il y a de la fraude potentielle à faire avec des gros montants, et lister un scénario d'attaque, faire un rapport HTML, et surtout faire 3 emails de business email compromise, des emails tout faits que l'attaquant pourra juste envoyer à partir du compte de la victime. Et souvent, ces emails vont être injectés dans un thread d'emails déjà existant. Donc, il y a déjà des échanges d'emails entre la victime et une autre personne de l'organisation ou un externe qui discute d'activités financières, et l'attaquant pour avoir un contexte beaucoup plus crédible, il va récupérer ce thread et ajouter son message là. Et donc le deuxième modèle qui permet de faire cette synthèse et la génération de ces 3 emails de business email compromise, c'est le modèle Grok Llama 3.3 70B. Je pense que l'attaquant utilisait 2 modèles différents, puisque le premier analyse 250 mails, donc analyse beaucoup de caractères, et utilise un modèle peut-être plus léger pour faire des économies de coûts. Et le second modèle est peut-être un peu plus robuste pour générer des scénarios d'attaque plus pertinents et des emails beaucoup plus précis, contextualisés. Et est-ce qu'il y avait une seconde question?
Merci pour la précision, parce que justement, j'ai lu trop rapidement, fait que j'avais cru que c'était Grok avec un K et non avec un Q. Bref, merci d'avoir précisé. La deuxième volet, c'est que le code lui-même avait été écrit par du A selon votre perception des choses.
Et oui, tout à fait. On a la grande intuition que le code du back-end Evil Token a été vibe codé, donc généré avec de l'IA. Déjà, j'ai pas une preuve tangible de ce que j'avance, c'est plus par expérience. Déjà, tout code est dans un unique fichier. Il est plutôt très bien commenté avec un onglet très très bon, sans faute d'orthographe. Il y a même pas mal d'émojis qui traînent dans ce code, donc je pense que les émojis, c'est assez caractéristique des LLM. Et puis quoi d'autre? Il y a quelques fonctions qui nous semblent mortes et qui ne fonctionnent pas, donc bon, ça peut arriver dans un développeur humain, mais ça arrive aussi assez régulièrement avec des résultats d'intelligence artificielle qu'on réitère plusieurs fois. Donc oui, on est assez persuadé que le code de Evil Token a été vibe codé. Donc je pense que ça n'empêche pas que l'opérateur de la plateforme de phishing as a service a de nombreuses connaissances sur les process pour faire de l'attaque par business email compromise, de la fraude par business email compromise, et que l'attaquant connaît aussi bien le phishing par device code. Mais en tout cas, ça lui a été d'une grande aide de générer tout ça via de l'intelligence artificielle. Et une dernière petite remarque par rapport à l'intelligence artificielle, il y a aussi une fonction qui permet de traduire les emails qui ne sont pas en anglais, donc dans les victimes, dans les boîtes mail des victimes, de les traduire en anglais grâce à l'API de OpenAI.
C'est vraiment dans une évolution, parce que pour moi, ma perception est très, très grande par rapport à ce qu'on voit, comme d'ailleurs, ça a attiré votre intérêt sur ce type d'attaquant-là. À partir de ça, puis là, je vais juste regarder une projection vers l'avenir, comment vous voyez les choses, en tout cas, où ce kit-là se développer, ou cette propagation de cette technique-là chez les autres opérateurs?
Oui, alors déjà pour la partie phishing par device code que Evil Token a introduit début mars 2026, on a vu les concurrents très vite ajouter cette fonctionnalité à leur code. Donc on peut citer Kratos, donc qui est aussi un phishing as a service qui proposait du phishing par ITM. Également Tycoon, donc qui est le plus gros FAS, le FAS le plus répandu, qui a aussi ajouté cette technique de phishing. Et ensuite, par rapport aux fonctionnalités d'intelligence artificielle pour automatiser la reconnaissance, la génération de scénarios d'attaque et d'email, je pense que c'est un marché très concurrentiel. En général, les écosystèmes cybercriminels sont des marchés très concurrentiels, avec, par définition, aucune règle éthique. Et donc, les concurrents vont vite adapter leur face, leur plateforme de phishing, pour copier ce genre de fonctionnalité, pour d'abord éviter de perdre une part de marché et pour éventuellement en gagner d'autres. Donc, à mon avis, dans les mois qui vont arriver, la majorité des plateformes face les plus répandues vont implémenter ces techniques de post-compromission augmentées par de l'intelligence artificielle pour être compétitif.
Oui, je te remercie énormément pour ce partage-là. J'espère que le monde a eu autant froid dans le dos que moi à l'écoute de tout ça et qu'ils vont poser des actions concrètes pour bloquer, notamment c'est bloquer le device code flow et probablement la meilleure stratégie pour justement arrêter dans en tout cas la première phase d'attaque. La deuxième était un peu plus difficile en l'occurrence de bloquer, mais quand même en limitant l'exposition des utilisateurs, on vient à limiter le problème. As-tu d'autres choses à mentionner ou ça fait sensiblement le tour de ce qu'il y avait à ce stade-ci dans votre analyse?
Oui, pour la remédiation, c'est la meilleure méthode, c'est en effet de bloquer l'autorisation par device code quand c'est possible, puisqu'il y a certaines entreprises qui utilisent ce mode d'authentification dans le cadre de téléconnecté, dans le cadre j'ai plus le terme, mais pour dans des salles de réunion, l'IoT qui permet de capter les voix, de les renvoyer dans une visioconférence. Donc pour ces cas-là, on peut pas tout simplement bloquer device code, mais en tout cas on peut faire des règles un peu précises sur quel utilisateur et utilisatrice ont le droit d'utiliser cette méthode d'autorisation, et donc pour bloquer les autres. Et puis plus généralement, comme c'est une technique de phishing qui est assez nouvelle et qui va être de plus en plus répandu, je pense que comme beaucoup de méthodes de phishing, il faut faire de la prévention, surtout les personnes à risque, donc les personnes qui travaillent en lien avec les activités financières, de faire de la prévention pour ce type de phishing et pour ce type de fraude par business email compromise.
Cool. Merci énormément pour ce partage-là. C'est très, très chouette. Moi, j'ai eu encore... Je le répète beaucoup parce que ça m'a vraiment donné froid dans le dos. Merci pour ces recherches, merci pour ce partage, puis je pense qu'on va se reparler très prochainement.
Eh bien, merci beaucoup à toi pour m'accueillir une seconde fois dans le podcast et pour présenter nos travaux. Merci.